Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Frames Live. C'est déjà la troisième et je suis très heureux de vous retrouver. Vous êtes chaque semaine plus nombreux. Merci beaucoup. Je rappelle à ceux qui découvriraient l'émission que Frames Live, c'est un direct qui a lieu deux fois par semaine, le mardi et le vendredi à 17h. Et à chaque fois, nous recevons deux invités. C'est une émission qu'on peut réaliser grâce à notre partenaire du CNC Talent. Donc merci à eux. Et aujourd'hui, donc, je reçois deux invités absolument délicieux, comme d'habitude, vous me direz. Et pour démarrer, pour commencer cette première partie, j'accueille Laure de la chaîne Art Content pour Rien. Bonjour, Laure.
Bonjour.
Laure, pourrais-tu te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas, qui n'auraient pas la chance de te connaître? Que fais-tu? De quoi tu parles sur ta chaîne, etc.
Alors, moi j'ai une chaîne qui vulgarise l'art contemporain, pour rien, oui, pas pour rien. Et je donne pas des cours, je suis pas orientée genre art vidéo, art conceptuel. Je dirais plus que j'essaie de poser des questionnements que moi, pendant toutes mes études d'histoire de l'art, on ne m'a jamais posé. Genre, la position de l'homosexualité dans l'histoire de l'art, qu'en est-il de l'éthique animale dans l'art, qui est une vidéo qui va arriver plus tard, et toutes ces questions que moi, j'ai jamais étudiées en cours, pour rendre ça un peu plus.
D'accord. Ok, et donc, quel est le parcours qui t'a amené jusqu'à la vidéo sur YouTube? T'as commencé comment?
Alors, alors, ça n'existe plus. J'ai fait une MANA, qui est une remise en niveau en art appliqué, mais on m'a dit que ça n'existait plus, que ça servait à rien de toute façon, donc c'est pas très grave. Après, j'ai fait une licence d'art plastique à Aix, et après, j'ai fait un master d'art plastique. Et
D'accord.
après tout ça, j'ai fait la chaîne YouTube.
D'accord. Et est-ce que tu avais déjà fait de la vidéo avant ou c'était juste une envie de présenter, de vulgariser l'art au plus grand nombre?
J'avais déjà eu des cours à la fac, mais la fac, tu vois, c'est pas les beaux-arts, il n'y a pas trop de matos, il n'y a pas trop de. C'était un peu genre des cours système D, faire de la vidéo. Et je me suis retrouvée à faire du YouTube parce qu'il y avait déjà eu la première vague des vulgarisateurs, genre Main Nombril et tout, c'était déjà implanté. Et je m'étais dit, ah tiens, et pourquoi pas l'histoire de l'art? Et à ce moment-là, bah, il n'y avait que Nat de Nart, la rentre en coup de pinceau. Du coup, je me suis dit, bah, il y a peut-être un petit truc à faire. Et voilà.
D'accord. Alors je rappelle aux gens qui nous regardent que vous pouvez poser vos questions dans le chat. Elles me seront transmises par Virginie qui lit vos messages et moi-même ensuite je les poserai à nos invités. Donc n'hésitez pas. Et j'ai oublié bien sûr de saluer notre ami Vince qui est à la régie et qui fait cette superbe réalisation que vous voyez. Donc merci Vince. Est-ce que tu peux nous présenter les différents formats qu'on peut trouver sur ta chaîne? Déjà, est-ce qu'il y a plusieurs catégories, plusieurs formats?
Non, il y en avait. Et après, je trouve que le format, c'est un peu un truc qu'on fait au début parce qu'on essaie d'avoir un truc carré. Puis après, on se dit, ben, on s'en fout. On fait comme l'envie nous, enfin, ce qu'on a envie de faire. On avance au feeling. Et du coup, c'est anarchique. Il n'y a plus du tout de format. Il n'y a plus rien. Je dirais que majoritairement, c'est des vidéos d'une quinzaine de minutes. Mais après, ouais, c'est pas du tout structuré, quoi. C'est fini. Il n'y a plus de structure.
D'accord. Et la dernière vidéo qui est sortie sur ta chaîne parlait de quoi?
C'est l'art et la révolution parce que j'ai vu que avec les gilets jaunes et enfin il y en a une autre. Ah oui, non, c'est vrai, j'ai un seul format, c'est Breaking News, où en fait dès qu'il y a un truc qui se passe dans l'art contemporain qui est assez gros et bien médiatisé, j'en parle pour l'expliquer. Mais voilà. C'est juste des potins, quoi. Mais du coup, la dernière vidéo, c'était sur les gilets jaunes et les manifestations à Hong Kong, parce que j'ai découvert qu'il y a énormément d'artistes qui ont créé sur le moment, et surtout à Hong Kong, il y a eu des expos et tout, et qui ont eu une création artistique de ouf. Et je me suis
Ouais.
dit, ah, mais c'est super intéressant de relater de l'art qui se crée maintenant, en fait, de trucs qui nous concernent, nous. Et du coup, c'était ça.
D'accord. Est-ce que actuellement tu es en train de travailler sur d'autres vidéos? Là, tout le monde est un peu en pause, forcément en stand-by. Est-ce que tu
Ouais.
réfléchis déjà à des projets pour la chaîne?
Je suis sur une vidéo, mais moi je trouve que le confinement, ça m'a plus donné envie de faire une pause. Pause. Genre une petite pause, tu vois.
Ok.
Je suis en vacances, il y a du soleil et tout, tout va bien, je suis en pause. Mais je bosse un peu sur une vidéo et il y a pas mal de projets qui sont en train de se concrétiser. Mais ça sera, tout est un peu en suspens justement à cause du confinement.
D'accord. Alors, quelques questions dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions, les amis. Alors, bon, alors on a des compliments. La chaîne de l'or est tellement géniale. Pour ceux qui ne connaissent pas,
Merci.
allez-y. C'est Axel D qui nous dit ça. C'est un ami à toi, peut-être? Non?
Non.
Bah, magnifique. Alors, vraiment, c'est encore mieux. Delphine nous dit, question un peu bateau, mais est-ce que tu as une activité en dehors de ta chaîne YouTube?
Une activité genre un travail, une activité plastique, une activité artistique, enfin.
Au sens très large. Je pense.
Ah, oui, professionnelle, non. Je suis une chômeuse.
D'accord.
Je squatte le pays dans lequel je vis.
On peut dire que ton activité principale actuellement, c'est
C'est
la
YouTube.
vulgarisation.
Oui, tout à fait.
Vulgarisation artistique. Et d'ailleurs, est-ce que tu as le sentiment que depuis que tu as démarré ta chaîne, il y a des gens, par exemple dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, qui te disent qu'ils ont mieux compris certaines choses qui leur échappaient avant dans le monde de l'art contemporain ou pas. T'as quel type de réaction?
J'en ai quand même pas mal. Je pense que dans les retours que j'ai, principalement, c'est que ça reste quand même une majorité, c'est ceux qui ont fait des études et qui connaissent. Donc du coup, ils me disent, ah super, j'ai mieux compris, machin. Mais j'ai quand même des gens, et ça pour moi, c'est le mieux, qui, comme tu dis, ont découvert des trucs. Mais le mieux, c'est genre, j'ai eu des commentaires de mamie. Genre, bonjour, je m'appelle Jocelyne, j'ai 85 ans, j'ai jamais rien compris, j'ai toujours cru que c'était pour l'élite des gens super cultivés, et maintenant je comprends et je trouve ça génial. Et je me dis, c'est une mamie de 85 ans.
C'est
Et
génial.
je trouve ça, moi, juste pour ce commentaire, j'aurais pu arrêter la chaîne juste après, tu vois, genre, c'est
D'accord.
bon, ce commentaire de cette mamie, il me suffit en fait. Et ça, c'est vrai que j'en ai pas mal, des commentaires comme ça.
Et parmi toutes les vidéos que tu as faites, est-ce qu'il y a un sujet en particulier que tu es particulièrement contente d'avoir pu amener au grand public? Par exemple, une niche artistique particulièrement obscure, réservée à un très petit nombre, que tu es content d'avoir un peu démocratisé et d'avoir présenté au grand public?
Je dirais que la pilule qui a été la plus difficile à faire avaler, c'était celle sur l'art conceptuel, parce que ça, c'est
Ouais.
vraiment un degré. En plus, j'ai pris des œuvres vraiment perchées, donc du coup, c'était vraiment compliqué. Mais je dirais que pour moi, l'art et l'homosexualité, pour moi, elle est hyper importante cette vidéo parce que c'est vraiment un virage et ça permet de montrer des artistes et de parler de moments de certains pays qu'on n'étudierait jamais si on n'était pas passé par l'art. Et vu que l'art documente quand même pas mal, ça m'a permis de découvrir que, par exemple, au Japon, jusqu'à ce qu'il y a, je ne sais plus quel type qui venait pour diffuser le christianisme, qui est venu juste avant lui, les relations homosexuelles dans les trucs, les théâtres et tout, c'était OK, c'était pas un truc qui était tabou. Ce type est arrivé, il a parlé en disant que c'était malsain, qu'il fallait pas faire des trucs comme ça. Et quand ce type il s'est barré 10 ans plus tard, ils ont fermé le pays et ils sont devenus anti tout ce qui va être de l'ordre de l'homosexualité ou des trucs comme ça. Et je me dis, tout ça, je peux le retrouver à travers l'art. Et c'est grâce à l'art que j'ai pu découvrir tout ça. Et du coup, moi, c'est ça que je trouvais hyper intéressant pour
D'accord.
faire.
Question de Axel qui nous dit, Laure, je postule à l'école des beaux-arts de Nîmes à la fin du mois. Aurais-tu des conseils pour l'entretien avec le jury pour présenter ses travaux pour préparer l'oral en général? Voilà.
Alors, je dirais que chaque beaux-art est différent. C'est vraiment, ils sont tous très très différents. Mais déjà, il faut pas se mettre la pression parce que il faut pas oublier que quand vous allez à l'école, vous allez à l'école pour apprendre. Moi, j'en vois plein passer sur Twitter qui disent, je sais pas dessiner, comment je vais faire? On va quand même aux beaux-arts pour apprendre à dessiner ou à faire de la peinture ou je sais pas quoi. On y va pour étudier. Donc, faut pas se mettre une pression et il faut savoir que dans les écoles d'art, ce qu'ils cherchent surtout, c'est un package. Ce n'est pas forcément un style de dessin ou un truc précis, c'est vraiment une personne complète. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas pris aux Beaux-Arts de Nîmes que ça veut dire qu'on n'est pas fait pour les Beaux-Arts, parce qu'on est peut-être fait pour les Beaux-Arts d'une autre ville. Moi, je prends l'exemple que je connais qui suis de Bruxelles. Le moule pour Bruxelles est extrêmement spécifique. Et je pense que c'est même mieux si on n'est pas dans ce moule-là. Mais voilà, il ne faut pas Faut pas s'angoisser et il faut surtout mettre en avant tout son univers artistique. pour bien s'en sortir.
Question très spécifique de Marie Wilde, ça va peut-être être l'occasion de faire la lumière sur certaines idées reçues en matière d'art contemporain. Donc, pourquoi cette passion pour le caca dans l'art contemporain, Laure? Est-ce que tu peux nous éclairer?
Mais parce que, Marie, on est ensemble pour la prochaine saison du Vortex. Cette passion pour le caca qu'on partage aussi avec Julien Méniel, c'est quand même très fun, le caca. Enfin, ouais. Je sais pas, moi je trouve que c'est un truc. En plus, en art, il y a trop de trucs sur le caca. Et elle, avec la biodiversité, elle a trop de trucs à dire sur le caca. Et Julien Méniel, avec le corps humain, il a trop de trucs à dire. C'est un truc qui nous unit tous, le caca, en vrai. Moi, je pense que c'est un truc qu'on oublie un peu trop souvent, quand même.
Je suis d'accord. Mais tu as un exemple particulier d'œuvre qui.
Ne me lance pas sur le caca dans l'art. Ouais. La demande, il y est toujours.
Ton œuvre préférée à base de caca dans l'art contemporain, Laure?
Je dirais que c'est Cloaca, parce que ça me fait quand même vachement marrer d'avoir fait un système digestif humain juste pour avoir de la merde, puis après il met sous cellophane et tout pour l'acheter et tout, comme c'était un bête produit marketing. Mais il y en a un qui a peint, qui a fait des peintures murales avec.
Juste expliquer, donc Cloaca, c'est de Wim Delvoye, c'est ça, qui est donc belge. Et donc c'est une machine qui simule un intestin.
Oui, on le nourrit au début comme un être humain et. 12 heures plus tard, il y a du caca. Ce caca, il le met sous plastique ou dans des trucs avec de l'eau dedans. Et on peut les racheter. Et il y a plein de cloacas. Il y a la cloaca qu'on connaît tous en général, enfin qui est la plus connue. Mais tu as la mini cloaca qui fait des mini caca. Il y a la cloaca Chanel numéro 5. Il y a plein de cloacas.
Et bien sûr, ces cacas artificiels sont vendus ensuite par Wim Delvoye.
Tout à fait, oui. Il a fait tout un marketing.
Il est très, très fort. C'est un univers passionnant, Wim Delvoye.
Ah, oui.
On peut peut-être écrire son nom dans le chat, ça vaut le coup d'œil. Une autre petite question de la part d'un certain Chronomusique, que tu connais bien, je crois, qui nous dit « Bonjour Laure, petite question, depuis tout le temps que tu es sur YouTube, tu as dû faire pas mal de rencontres. Si tu devais dire la meilleure rencontre, quelle serait-elle ? Bonne journée, nous dit-il. » Il y a vraiment un truc entre vous deux, j'ai l'impression. D'ailleurs, ton pseudo sur Twitter, c'est Art Content pour Chrono, il y a un truc entre vous deux.
Michel Loulou, quoi. Tout ça, il me force. Ce que vous savez pas, c'est quand je vais quitter, il y en a un qui va passer un sale quart d'heure. Du coup, ma meilleure rencontre YouTube, c'est Chronomusique, toute personne confondue.
Mais vous avez déjà fait une collaboration, vous allez le faire peut-être?
Alors, pendant un an, on a dit qu'on allait le faire. Et on l'a toujours pas fait. Mais depuis un an, on a dit que ça allait arriver parce qu'on a déterminé la thématique. On sait sur quoi on va la faire.
Ce sera quoi? Ah, c'est le secret peut-être.
Oui, je ne peux pas dire.
Je comprends. Laure, tu es à Bruxelles. Okay. Et tu nous disais tout à l'heure, hors antenne, que le confinement à Bruxelles, c'est un peu compliqué. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment ça se passe là-bas?
Alors, encore une fois, je parle pour ma rue et mon quartier. Je ne sais pas pour le reste de Bruxelles. Voilà.
Pas de généralité, c'est ta rue.
Voilà, moi, je suis bien confinée. C'est mon quartier. Chez moi, ils s'en foutent. Genre, chez moi, tout le monde, mon voisin, fait venir des gens. Quand je vais faire les courses, donc une fois tous les 10 jours, je croise plein de gens, personne n'a de masque, les flics s'en foutent, ils marchent à trois côte à côte, sans masque, sans gants, tout le monde s'en fout. Et en plus, là, il fait beau, donc le soleil avec les Belges, on sait pas les tenir chez eux. C'est pas possible. S'ils ont pas d'extérieur et s'il fait beau, le Belge sort.
C'est dingue. Est-ce qu'il y a eu les mêmes mesures qu'en France? Est-ce que c'est interdit? Est-ce que les gens sont sanctionnés s'ils sortent? Ou est-ce que c'est
Moi, j'ai vu passer que là, avec les vacances qui étaient le week-end dernier, ils ont sanctionné. Et en plus, en Belgique, c'est on te sanctionne une fois. Si on retombe dessus, c'est un procès verbal direct. Donc, il n'y a pas de... On ne rigole pas. Et donc, ils ont beaucoup sanctionné le week-end dernier. Mais je ne sais pas si les sanctions, c'est toute la semaine ou si c'était là de manière ponctuelle. Après, les flics, moi, je les vois dans la rue, ils font rien. Donc, je ne sais pas si...
Waouh. Ok, bon. Comme quoi, on n'est pas si indiscipliné que ça en France, parce qu'on peut voir beaucoup d'images, beaucoup d'images qui circulent sur les réseaux sociaux, où il y a beaucoup de gens qui continuent à aller dans les parcs, etc. Mais dans l'ensemble, j'ai l'impression qu'on est quand même assez sérieux. Donc là, tu m'as appris, je ne savais pas, je n'étais pas au courant, que, en tout cas, dans ce quartier à Bruxelles, bon...
Oui, dans cette rue, oui. Mais après, en Belgique, les cas sont stabilisés, ça descend au niveau des hôpitaux, et la crise sanitaire a été moins forte quand même qu'en France. Donc, Je ne sais pas si ça joue.
Okay. On a une question de Diane Lapin qui nous dit: si tu pouvais tourner dans n'importe quel musée ou lieu d'art du monde, lequel choisirais-tu?
Ça serait la Benesse House à Naoshima au Japon, qui est pour moi
D'accord.
la plus grande claque d'art contemporaine de ma petite vie de 28 ans.
D'accord, et tu peux nous dire pour quelle raison en particulier?
Alors c'est en fait c'est une île, enfin c'est un ensemble de petites îles. Il y en a trois. Mais il y a une petite île principale qui est au Japon et c'est un ensemble d'îles d'art contemporain. Il n'y a que de l'art contemporain. Et il y a
D'accord.
des artistes, dont Christian Boltanski, qui ont des œuvres qui n'existent que là-bas. Donc si tu veux
D'accord.
voir l'œuvre, il faut que tu bouges tes fesses. Et du coup,
OK.
moi, vu que j'étais au Japon, j'ai un ancien prof de la fac qui m'a dit: Ah, mais Laure, savais-tu qu'il y avait ça? Et du coup, en fait, j'ai tout changé mes plans pour partir sur cette petite île pour voir ces œuvres en question. Et les musées, l'architecture est hyper intéressante. Il y a genre quatre œuvres par musée. C'est autant l'architecture que les trois œuvres qui ont été créées pour le musée. Par exemple, il y a des nymphéas de Monet. Mais la pièce a été construite pour les nymphéas. Donc, les ouvertures pour la lumière sont mises de cette telle manière que tu vois les couleurs comme si tout est le. Le sol est peint de telle manière pour la que la reflet. Enfin, tu vois, tout est vraiment fait pour l'œuvre et ça bougera jamais.
C'est génial.
Et ouais,
D'accord.
c'est incroyable.
Peut-être. Ah oui, tu peux répéter
Alors,
le nom?
les îles, c'est Naoshima et Teshima, et c'est au milieu du Japon, en bas.
Alors, jolie transition vers le sujet suivant, puisque on va parler de la mobilisation du monde de l'art par rapport à ce confinement. Il y a énormément de musées qui mettent leur collection en libre accès sur Internet. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à tout ça?
Moi, de ce que j'ai vu, c'est que pas mal de musées se sont adaptés et ils ont beaucoup partagé sur YouTube des vidéos pour parler des artistes qui sont dans leurs expos, pour faire des tours. Et ils rebondissent pas. Moi, je trouve que de manière générale, ils rebondissent quand même pas mal sur les réseaux sociaux. J'ai pas vu de. Après, je suis pas non plus énormément de musées sur les réseaux sociaux, mais j'en ai pas vu se terrer et faire comme ça en attendant que le confinement passe. Je les ai vus pas mal rebondir.
Ouais. Et donc, il y a des musées en particulier dont tu as pu visiter comme ça les collections de façon virtuelle.
Oui, et ça peut nous faire rebondir sur les trucs que je voulais partager.
Ouais.
Mais avant, il était censé se passer à Paris au début du mois l'artiste Christo qui devait empaqueter l'Arc de Triomphe
Ah
pendant
oui.
une semaine. Et en
Ouais.
fait, ça a été déplacé à septembre parce que c'était censé être en écho avec une expo à Pompidou, je crois, je suis pas sûre. Et en fait, tout est décalé jusque.
Alors, pour les gens qui ne connaissent pas du tout le monde de l'art contemporain, donc Christo, c'est un garçon qui
L'impact.
emballe des monuments depuis très
Ouais.
longtemps.
Depuis très longtemps, ouais.
Et il les emballe dans quoi? Ça ressemble à quoi? C'est comme des paquets cadeaux?
C'est plutôt comme un tissu gigantesque. Quand il
Ouais.
avait fait le pont des Arts à Paris, le pont des Amoureux, là.
Ouais, ou le pont Neuf?
Pont
Bon,
Neuf?
bref, un pont à
Ouais, bah,
Paris.
c'était un pont à Paris, ouais.
Ouais.
Il avait tout emballé, mais. Comme si on devait le présenter comme un cadeau, mais avec un tissu qui a l'air sans fin. Enfin, comme s'il avait fait comme ça autour du
Ok,
pont.
c'est vraiment son obsession depuis plus de 30 ans.
Ben, il fait plein d'autres trucs, mais dont ça. C'est une de ses pratiques, ouais.
D'accord. Et donc, ouais, j'y avais pas pensé à ça, mais c'est vrai qu'il y avait ce projet d'emballer l'Arc de Triomphe. Du coup, c'est reporté. Et bah, du coup, bah, on peut passer à tes suggestions culturelles. Donc, voilà, est-ce qu'il y a des musées en particulier dont tu veux nous conseiller la visite?
Ben, moi, ce que je vais conseiller, c'est Agriculture de Google. Alors,
Alors.
Agriculture de Google, on l'a en site web et en application mobile. Ça vous permet de visiter des musées du monde entier. Donc, soit c'est bien fait et on a vraiment l'impression d'être dans une vraie expo virtuelle où on se balade de manière assez facile. Soit c'est monté comme quand on est dans Google Street View. Donc on avance en latence comme ça. Et ça permet. Bon, en gros, c'est quand même des gros musées qui font ça, mais ça permet de visiter des pays partout, en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Il y a aussi des focus sur des artistes, des focus sur des thématiques. Et ce qui est très intéressant, c'est que les vidéos sont, les photos des œuvres sont full HD. On s'est super zoomé à l'intérieur. Et il y a toujours des petits textes explicatifs qui t'expliquent ce que tu regardes. Ça, c'est pratique.
D'accord. Est-ce que tu as découvert comme ça des musées que tu aurais bien voulu visiter en vrai, mais tu n'as pas forcément découvert?
De mémoire, je n'ai pas retenu de nom, mais je me souviens qu'au Kenya, j'ai vu un truc. Et là, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais je me souviens qu'au Kenya, il y en avait un qui avait l'air plutôt pas mal.
C'est
Au
vraiment
Kenya et
extraordinaire. C'est vraiment dans le monde entier, comme ça, entrer dans les musées, observer les œuvres de très très près, c'est fantastique, quoi. Vraiment un street view de l'art,
C'est ça.
littéralement. C'est vraiment génial. Donc ça s'appelle Art et Culture, et c'est
Agriculture,
évidemment accessible à tous. Super. Alors, est-ce que tu as d'autres suggestions culturelles à nous donner? Film, tu me parlais d'un film d'animation.
oui, le film La Passion de Van Gogh, qui a été réalisé en 2017, qui retrace la vie de l'artiste, mais le film est animé comme avec le même aspect stylistique que les peintures de Van Gogh, donc en mode tout baguelette comme ça et tout, et qui est très très beau.
Mais est-ce que ça a nécessité de faire des centaines de peintures du coup, ou est-ce que tout est en image de synthèse? Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, mais je pense que c'est en image de synthèse.
D'accord.
Je suis
Parce
sûre.
que il me semble qu'il y a un film qui avait été entièrement animé à base de peinture. Donc, c'est-à-dire que pour chaque frames, l'artiste avait créé un tableau. Enfin, un travail absolument colossal. Oui, j'entends Vince dans l'oreillette. D'accord. Alors là, normalement, vous n'avez pas entendu, chers
Ah
spectateurs,
ben
mais Vince en régie nous expliquait qu'il y a un tableau comme ça où un personnage voyage entre les tableaux de Van Gogh. Et c'est ça alors?
oui.
C'est un autre truc? Bon, c'est un autre truc. Est-ce que tu as d'autres suggestions de livres, séries, peu importe, podcasts?
Moi, j'ai des suggestions Instagram et des podcasts.
Alors, vas-y, on t'écoute.
Alors, en podcast, j'ai... Attends. Les Passionnariats, c'est sur
Ouais.
les femmes engagées dans les arts. Et il y a aussi Sens de la visite, où c'est la rencontre entre des visiteurs de musées et des professionnels de l'art. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui a visité une expo qui raconte sa perception de l'expo. Et après, il y a des professionnels qui viennent rajouter des connaissances par-dessus. Et il y a
D'accord.
aussi Bulle d'art, dans lequel j'ai participé, où on a parlé d'œuvres. Ils visitent aussi des expos en direct. Il y a ça. Sur Instagram, il y a la Minute Culture, qui tous les lundis parle d'un artiste, d'une œuvre ou d'un truc comme ça. Moi, j'ai aussi un Instagram sur l'art qui s'appelle Mardi, parce que c'est un excellent jeu de mots de mardi,
Oh, bien
avec
vu.
art dedans,
Je
où
l'ai, je l'ai.
je fais une minute, une vidéo de 1 minute pour parler d'un truc rapido, mais c'est vraiment juste une mise en bouche parce que en 1 minute,
D'accord.
on ne dit pas grand-chose.
Ouais.
Et j'ai commencé, moi, pendant le confinement, pour faire une blague avec une très bonne amie à moi. On fait des mèmes de quarantaine tous les jours jusqu'à la fin de la quarantaine. Et là, ça fait 20 jours et on a déjà. Enfin, j'ai plus d'idées et je me dis, mais ça va me. Du coup, j'ai l'impression de vivre encore plus cette quarantaine parce que
Comment
tous
s'appelle
les jours, je dois faire. Alors,
comment ça...
c'est Two Girls, One Quarantaine.
D'accord.
Est-ce que tu as la ref cachée
Sûr,
de Two Girls?
je
Voilà.
l'ai, hélas, malheureusement. Je l'ai comme beaucoup de gens.
C'est ça.
Alors, d'autres questions nous sont venues
Oui.
entre-temps. Laure, est-ce que ton musée avance bien dans Animal Crossing? Peut-être expliquer un peu aux gens. Animal Crossing, pour vraiment pour les gens qui ne connaissent pas du tout, c'est un jeu vidéo dont la dernière version vient de sortir sur la Switch. Et dans ce jeu, on peut donc créer son propre musée. Et c'est vraiment, vraiment cool.
Ouais, il est
Donc,
très beau en
comment
plus.
avance ton musée, alors, dans Animal Crossing?
Il avance très bien, je crois que je suis à jour. Il y a juste un poisson que je n'ai pas eu le mois dernier, le Dayu. Je n'ai pas réussi à le pêcher, donc il me manque un poisson du mois de mars.
D'accord. Il faut reconnaître que rien que ça, rien que cette fonction dans Animal Crossing pourrait être un jeu à part entière. Et je crois
Oui.
d'ailleurs qu'il est, et c'est pas je crois, je le sais puisque je l'ai vérifié, le musée est notamment inspiré d'un musée Tokyo Heat pour
Ah ouais?
l'architecture. La partie avec les dinosaures, c'est inspiré d'un vrai musée.
Ah,
Donc
trop
voilà,
bien.
là je l'ai plus en tête tout de suite, mais je le mettrai peut-être plus tard, hein, sur le chat. Je remonte un peu les questions. Est-ce que tu parleras un jour dans une vidéo de la Halle Saint-Pierre à Paris ou du magazine Hey? Très beau magazine s'il en est. Si
C'est
c'est non, c'est non.
pas ouais, c'est pas prévu du tout.
D'accord. Tu lis le magazine Hey, Hey, ou pas?
J'ai lu quelques exemplaires, mais je ne lis pas assidûment.
Qui est vraiment un magazine magnifique, qui a toujours des couvertures absolument sublimes, que personnellement je recommande en tout cas, pour les amateurs d'art et pour les autres d'ailleurs. C'est vraiment un très très beau magazine. Qu'est-ce que je voulais dire? Que fais-tu toi pour occuper? Donc tu nous disais tout à l'heure que pendant le confinement c'est vraiment une pause. Et est-ce que y a des trucs que tu fais pas forcément d'habitude, que tu n'as pas le temps de faire et que tu te permets de faire maintenant?
À part jouer beaucoup à Animal Crossing,
À part ça.
je dirais que j'ai repris un peu tous les trucs que j'avais mis en stand-by. Genre, je me suis bien remise au japonais, parce que j'apprends le japonais en hobby, allez
Ah,
savoir
génial
pourquoi.
ça.
Ouais,
Génial.
je sais pas. Ça, je me suis remise au truc plastique avec les mains, genre au crochet, au dessin, au truc. Je prends
D'accord.
un temps pour moi. En fait, mes journées sont séparé en temps pour moi sur un truc. Genre le matin, c'est temps
Trop
pour moi
bien.
pour le sport, avec le soleil, c'est temps pour moi au soleil, après c'est temps pour moi plastique, après c'est temps pour moi. Je fais que ça de toute la journée.
C'est génial. Juste pour
Oui.
le japonais, c'est une appli en particulier, c'est des cours en ligne, comment ça se passe?
J'ai eu des cours, en fait, j'ai des cours que j'avais cours l'année dernière et j'ai eu cours cette année, et sauf que j'ai pas pu trop y aller, mais la prof nous envoie les cours par la mail. Donc en fait, je
D'accord.
récupère les mails et je continue de travailler les cours comme si j'étais en cours.
D'accord. Alors, moi, je tiens à dire que j'ai appris hier le morse en 2 heures
T'as
grâce
appris le morse en
le
2 heures?
morse. Écoute, quand je me suis levé le matin hier, j'aurais pas cru que ce serait le projet de ma journée, mais j'ai appris le morse en 2 heures grâce à une appli lancée par Google. Et en fait, c'est une méthode qui permet d'associer les lettres à des images mentales. Et j'ai mémorisé le truc en 2 heures, c'est ouf. Je pourrais communiquer en morse avec toi actuellement, je ne vais pas le faire parce que ce ne serait pas
Mais c'est trop bien.
forcément
Moi,
pratique.
je veux le nom de l'application. Je vais apprendre
Eh
le
bien,
morse, moi aussi.
écoutez, je suis en train de la chercher en ce moment même. Là, je cherche sur mon navigateur. Donc, c'est Google qui a développé ça. Et on peut à la fois l'utiliser dans son navigateur, c'est-à-dire qu'on a des lettres, des mots qui apparaissent, on doit les taper en morse. Ça s'appelle tout simplement Morse with Google. Donc vous tapez ça dans Google, Morse with Google, et vous allez voir une espèce de jeu, c'est comme un jeu, sauf qu'à la fin
Mais
du
c'est trop
jeu, quand
bien.
tu l'as terminé, ben, tu parles en Morse. Donc ça peut servir, on sait jamais ce qui peut arriver. Ah, c'est Morse Learn, voilà. Merci Virginie qui a posté le lien dans Google Chat. Vraiment, c'est très ludique, et en plus, ben, à la fin, vous avez appris un nouveau truc. Donc c'est vraiment, et je
Bah
pense
ouais.
sincèrement que la méthode est tellement efficace qu'à mon avis, je vais pas l'oublier de sitôt. Ben, c'est très très malin. Par exemple, pour te donner un petit exemple, le R en morse, c'est point, trait, point. Et pourquoi je m'en rappelle? C'est parce que quand tu l'écris, ça fait une petite tête de robot. Et la méthode fonctionne là-dessus. Pour chaque lettre, tu as une image qui
Ah,
reste gravée dans la tête.
ok.
Donc, petit robot. Pour le S en morse, c'est 3 points. Poum, poum, poum. Et en fait, l'image visuelle qui te donne pour mémoriser le S, c'est un petit sous-marin, donc submarine, petit sous-marin avec 3 hublots. Et je n'oublierai jamais le
Ah,
S,
bah
toi
ouais.
non plus d'ailleurs. Tu n'oublieras plus jamais que le S, c'est 3 points. Donc voilà. N'hésitez
Trop
pas,
bien, trop bien.
si vous avez envie d'apprendre le morse, n'hésitez pas à aller sur Morse Learn. Laure, ça fait déjà une demi-heure que nous parlons tous les deux, ça passe très vite.
Ça passe trop vite.
Mais on a dit beaucoup de choses, c'était bien dense. Merci pour tes suggestions et tes recommandations. Et merci d'avoir été avec nous pendant cette demi-heure. Je te souhaite.
Merci à toi pour l'invitation.
Avec plaisir, je te souhaite une belle journée et une bonne suite de confinement. J'espère que les gens vont être un peu plus sérieux dans ton quartier. Mais voilà. Donc, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.
Salut.
Et nous allons accueillir très bientôt, dans quelques secondes, notre deuxième invité. Je vous
Coucou.
rappelle, est-ce qu'il est déjà à l'écran ou pas, notre deuxième invité? Il est déjà là. Bon, bah d'accord. Moi, j'ai pas eu le temps de faire ma transition. Je voulais le présenter avec les honneurs. Donc, vous avez compris, c'est l'ami Léo Grasset de la chaîne Dirty Biologie. Bonjour, Léo.
Ça va?
Écoute, ça va très bien. Tout à l'heure, quand on a fait les tests, Léo avait les cheveux mouillés et je pense que vous perdez au change. Parce que
J'étais tout
c'était.
moite, tout
Ouais,
humide.
j'avoue que c'était assez redoutable. Alors. Léo, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, c'est très hypothétique. Déjà, est-ce que par hasard tu as fait un petit tweet, tout ça, pour rameuter ta belle communauté dans ce live ou pas?
J'étais RT avec passion d'ailleurs et fougue,
D'accord.
mais je vais le refaire,
C'est
je
pour
m'en
avoir
occupe.
des questions, hein, parce que les gens, n'oubliez pas
Ouais.
que vous pouvez poser des questions dans le chat à nos invités, je leur transmets. Donc voilà, donc là, il
Vas-y,
est en train.
je suis en live ici. Venez poser vos questions en live.
Magnifique. Un très beau décor chez Léo, avec une très jolie plante derrière toi.
Ouais,
T'as
c'est mon décor de, bah des
de
vidéos et
vidéo.
puis de Twitch aussi.
On le reconnaît bien. T'as activé la fonction floutée de l'arrière-plan ou pas du tout?
Même
C'est
pas
naturel.
besoin, c'est l'objectif, c'est un
Trop
très joli
bien.
caillou. Ouais.
Petite profondeur de champ qui fait plaisir. On est très très bien.
On se met bien.
Alors Léo, du coup, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, c'est très hypothétique, hein, parce que les gens te connaissent, je pense, dans ce live, mais est-ce que tu peux nous présenter ton parcours, tout simplement, et ce que tu fais sur YouTube?
Ok, je m'appelle Léo Grasset, je fais des vidéos de vulgarisation, on va dire de biologie, mais pas que. Maintenant, je fais un petit peu de tout ce qui m'intéresse et j'ai une formation de biologiste. J'ai habité à plein d'endroits différents et je me suis enfin posé en France.
Tu étais
Voilà.
en Thaïlande avant.
Voilà, j'habite en Thaïlande. J'ai commencé la chaîne en Thaïlande.
Et il n'y a pas que, y a pas que la chaîne, hein, puisque tu as aussi sorti des ouvrages, plusieurs ouvrages.
Ouais, d'ailleurs, tu m'y fais penser.
C'était pas préparé, ça. Je tiens à dire aux gens
Non,
qu'on n'est pas du
c'était
tout.
pas préparé. Ah, je suis sûr. D'accord, attends, je vais baisser mon son. Yeah. Voilà. Ça, c'est la version perse du bouquin que j'ai écrit en 2013, avant de commencer la chaîne. Et ça me fait
C'est
délirer.
magnifique. Donc, ton premier livre s'appelle Le coup de la girafe.
Ouais, c'est pas moi qui ai choisi le titre.
Et il a été traduit en combien de langues?
Ouais. Je dirais 7, un truc comme ça.
7 langues. C'est
Ouais.
fantastique.
Ouais, c'est assez cool. Ouais. C'est vraiment le
C'est
truc
vraiment
qui. Ça me touche beaucoup.
génial. Et moi, ce que je remarque, c'est que, en général, les éditions étrangères sont toujours, en tout cas la couverture, est toujours beaucoup plus réussie que la
Ouais.
version française.
Non, non, clairement, les éditions étrangères, enfin, il y en a qui déboîtent. Alors, il y a une version italienne, t'as vraiment l'impression que. Ils ont essayé de faire une girafe dessus, mais t'as l'impression qu'elle est morte-née, mais qu'elle a quand même grandi. Mais là,
Okay.
cette version en perse, là, qui a été, elle est sortie en Iran l'année dernière. C'est une anecdote trop drôle. En fait, c'est un mec qui est venu me voir sur Twitter et il m'a demandé est-ce que je peux traduire ton livre en perse? C'est pas à moi qu'il faut demander, c'est à l'éditeur, moi je cherche plus ce genre de truc. Il me répond pas, puis il m'envoie après une photo du bouquin en disant bah voilà, c'est sorti et tout. Je dis ah, du coup, vous avez fini par vous mettre d'accord avec l'éditeur. Il fait ah ben non, en Iran, on respecte pas le droit d'auteur. Donc je l'ai fait que ça et j'étais là oh, trop cool!
C'est pas vrai, c'est-à-dire que le livre est sorti, mais là tu touches pas du tout le droit d'auteur sur ce qui est vendu en Iran.
Non, bah, je m'en fous, hein, honnêtement. Je trouve ça trop cool qu'il soit en Iran, tu vois, c'est
Ah,
trop
mais
bien.
c'est clair, je suis d'accord, mais
Et,
c'est fou, je savais pas du tout que ça fonctionnait comme ça. C'est-à-dire
bah,
que n'importe qui.
c'est une réaction, je pense, aux embargos, tu sais, qu'ils ont subi de la part des États-Unis et tout. Donc, voilà, ils font avec ce qu'ils peuvent, quoi.
D'accord, bah dis
Voilà.
donc. Et je crois qu'il est sorti aussi en japonais ton livre,
Ouais,
ou dis bêtises.
en coréen aussi.
En général, les couvertures japonaises et coréennes sont absolument magnifiques. Je ne sais pas si tu l'as à proximité là. Non, il est peut-être. C'est
Non.
souvent les plus belles versions. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont très 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 forts là-dessus.
Ouais, elle est trop stylée, mais je l'ai pas là. Je l'ai
Très
pas
bien.
ici.
Donc il y a eu ce livre, Le coup de la girafe, et il y a eu aussi une BD que tu as créée avec ton frère,
Surtout
Colin.
Colin, c'est plus lui qui, parce que moi je l'ai juste écrite, mais lui il a travaillé pendant des mois
Dis-moi,
sur les dessins.
c'est quand même pas rien de juste écrire le livre. C'est quand même un
Cool.
bon début. Et elle s'appelle La grande histoire du sexe.
Ouais, la grande aventure du sexe,
La grande aventure.
c'était de montrer que le sexe c'était plein de trucs et que c'était vachement intéressant, même intellectuellement parlant, en
Ouais.
biologie, et que du coup voilà, on pouvait raconter des jolies histoires avec tout ça, quoi.
C'est sorti chez Delcourt, il y a 2 ans, je dirais à peu près.
2 ans, 2017, ouais, je crois.
Très bien, la grande aventure du sexe. Donc, Léo, sur ta chaîne, évidemment, tu parles principalement de biologie, mais pas que. Tu parles de beaucoup de choses, des choses qui t'intéressent en général. Et la dernière vidéo qu'on peut trouver sur ta chaîne, elle parle de la situation actuelle, elle parle du coronavirus, et cette vidéo a absolument cartonné. Je pense que c'est sans doute la vidéo qui a été le plus vue, peut-être pas le plus vue, mais qui a démarré le plus fort.
Ah ouais, de ma chaîne, oui, carrément, ouais. Ah. Alors,
Vous
cinq
l'avez
jours, elle
ressorti
avait
il y
un
a une
million
semaine.
de vues, quoi. Elle est sortie, je pense, il y a peut-être 10 jours, un truc comme ça, maintenant.
Il y a 10 jours, et donc tu as plus d'un million de vues déjà.
Et ben ouais, même peut-être 1,2 million, 1,3 million, je sais pas où ça en est là, je regarde pas ça souvent, mais c'est vrai que c'est. Enfin, j'ai jamais eu ça moi.
Alors, pour expliquer le succès de cette vidéo, il faut préciser qu'elle est extrêmement complète, documentée, et personnellement, moi, je l'ai envoyée à beaucoup de gens qui se posaient des questions sur le sujet. Je pense que c'est ce qu'ont dû faire beaucoup de personnes, en fait. C'est une vidéo qui synthétise bien la question. Donc, est-ce que tu peux, là, pour ceux qui ne l'auraient pas vue, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu de quoi tu parles dans cette vidéo spécifiquement?
Bah, en gros, j'ai essayé de prendre l'angle de qu'est-ce qui va se passer cette année? Comment est-ce qu'on va vivre voilà, cette année très très particulière qui commence avec une pandémie? Et à quoi sert le confinement? Et est-ce qu'on va bientôt arrêter le confinement ou pas? Enfin, bref, voilà. Et en gros, pour répondre à ces questions, on a besoin de principes d'épidémiologie un peu de base. Voilà, comprendre le R0, comprendre est-ce que ça s'immunise pas? Bref, qu'est-ce que ça veut dire toutes ces courbes qu'on voit en permanence? Et voilà, j'essaie de montrer aux gens que c'est sans doute beaucoup plus sérieux que ce qu'on croyait. Enfin, non, c'est clairement plus sérieux que ce qu'on croyait il y a 2 mois. Et que clairement, on n'en a pas fini d'entendre parler du coronavirus. Voilà, c'est un
Quand
message
tu
très chouette.
ouais, comme c'est, mais comme c'était il y a 10 jours et que tout va très très vite,
Ouais.
je crois que tu as une nouvelle vidéo en préparation.
Voilà, donc là, j'ai une autre vidéo, mais c'est qui est plus large. Alors, c'est pas vraiment sur cette épidémie-là. Parce que enfin, voilà, je n'ai pas trop d'autres trucs à raconter sur cette épidémie, même s'il y a plein d'autres choses intéressantes, mais pas pour ma chaîne. Mais là, ce serait vraiment plus pour essayer de retourner à la base de la base de la base, qu'est-ce qui s'est passé au départ et comment est-ce qu'on aurait pu éviter ça, et en fait, comment les épidémies émergent et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les arrêter et dans le futur, quoi. En gros, essayer de prévoir à l'avance les épidémies qui arriveront dans le futur, parce qu'il y en aura d'autres. Désolé. Et quels seraient les mécanismes à mettre en place pour les arrêter, quoi. Et c'est intéressant parce que, en fait, en écrivant le truc, je me suis rendu compte que j'étais en train d'écrire quasiment une défense assez vigoureuse du végétarisme. Ouais, mais c'est complètement accidentel. Enfin, j'avais pas vraiment prévu de faire ça et tout, mais factuellement, c'est la conclusion logique de l'épisode quasiment.
Oui, parce qu'on s'aperçoit que toutes les grandes épidémies de ces 20-30 dernières années étaient liées directement à la consommation d'animaux, quoi.
Ouais, exactement. Ouais. Et puis là encore, dans ce cas précis, donc c'est passé par une espèce inconnue. C'est plus un pangolin, mais a priori, mais c'est peut-être autre chose, peut-être des serpents, peut-être, je sais pas. Mais bon, la viande exotique mise à part, en fait, la plupart des autres pandémies, ça venait de réservoirs domestiques, en fait. Donc les cochons, les poulets, la grippe aviaire, la grippe porcine, tout ça, quoi. Donc c'est un très grand classique.
Alors, il me semble qu'il y a déjà des mesures qui ont été prises en Chine. Ben là, j'ai vu que, par exemple, Shenzhen, pardon, pas Schengen du tout, Shenzhen est devenue la première ville à bannir la consommation de chiens et de chats.
Trop fou, trop bien, je l'avais pas vu.
Et bon, c'est le cas aussi pour les animaux sauvages. Je crois
Ouais.
que ça va être beaucoup plus strict par rapport à tout ça. Étant donné que c'est quelque chose de très ancré culturellement, d'ancestral, et que c'est lié aussi à la médecine traditionnelle et tout ça, bon. Il y a peu de chances que les gens s'y plient totalement, mais en tout cas, il y a une volonté d'essayer de freiner ça, quoi.
Ouais. Je crois qu'en fait, il y a aussi un aspect qu'on n'avait pas très bien compris, enfin, nous, occidentaux, c'est que la consommation d'animaux exotiques, c'est aussi un truc de statut social en Chine, où en fait, ça coûte cher et tu te la pètes en allant bouffer du pangolin, quoi. Et
Ah, d'accord.
ouais, et du coup, c'est aussi tu sais, c'est un peu le connard avec son Hummer qui va, en fait, il emmerde tout le monde juste pour son propre, voilà, sa propre truc. Bah, c'est un peu la même chose, quelque part.
Il y
Voilà,
a le côté, je suis au sommet de la chaîne alimentaire, je bouffe tout et n'importe quoi, et peu importe les conséquences. On a des questions, bien évidemment, sur le chat. J'ai adoré la vidéo sur l'eugénisme et celle sur le futur de la natalité. D'autres vidéos dans le même genre vont-elles voir le jour?
Oui, les thèmes de tout, enfin, on va dire tout ce qui est autour du sexe et puis comment est-ce qu'on va réussir à modifier notre propre biologie, ça m'intéresse. Après, j'en ai tellement parlé récemment que je vais attendre un peu. J'ai d'autres projets là. Plus différent. Je vais essayer surtout de faire des épisodes un peu plus rigolos parce que je me suis rendu compte que mes derniers épisodes étaient tous très badants. Donc je voudrais faire des trucs un peu marrants, voilà, où t'es pas envie de te tirer des balles à la fin d'une petite session d'Orty Biology, quoi. Ça serait pas mal.
Cela dit, le montage fait que la pilule passe mieux. C'est
Ouais.
quand même très marrant.
Bon, le message est.
Ouais.
Tu vois, la vidéo sur l'empathie, à la fin, t'es un peu.
Mais si en plus de ça, la forme était dramatique, je pense que ce serait terrible. Donc heureusement que ça allège un petit peu la forme, allège un petit peu le propos. On nous demande si donc tu vas t'installer un mur d'escalade intramuros. Les gens te savent faire une escalade, c'est-à-dire que tu postes sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Instagram, des photos de toi en train d'escalader des parois, d'escalader des parois, pardon. Donc là, j'imagine que ça te manque beaucoup en ce moment, c'est un truc que tu adores.
Je pète un câble, hein. On va pas se
Ouais.
mentir, je craque complètement. Ouais, et c'est effectivement, si on part pour un an de confinement, je vais me fabriquer un truc, ouais.
Mais c'est pas déjà le cas? T'as pas déjà un truc là pour t'entraîner un peu?
J'ai mon escalier, j'ai ce qu'on appelle une poutre.
Ouais.
C'est un hangboard sur lequel tu te pends pour t'éclater les avant-bras, basiquement. Voilà. Mais ça suffit pas. C'est pas la sensation de tout le corps qui bouge. Tu vas chercher les prises, machin. C'est juste un entraînement, en fait.
C'est vraiment un truc qui est devenu une passion pour toi en assez
Ouais.
peu de temps. Finalement, t'as commencé quand à
Ouais.
faire ça, à escalader
Bah là, à Donf, je dirais en août, en fait, au même moment où je suis revenu en France, où je me suis réinstallé ici. Après, j'en avais fait quand j'étais petit, j'aimais bien ça, mais c'est juste que les endroits où j'habitais, je pouvais pas en faire. Quand on était en Guadeloupe, il n'y avait pas de mur d'escalade. Quand on était à Chiang Mai, il n'y avait pas de mur d'escalade. Donc voilà. Mais là, comme j'ai l'occasion, en plus, au nord de Montpellier, il y a des falaises dans tous les sens. C'est trop beau. Enfin, oui, c'est trop bien.
C'est nickel. D'autres questions? Alors attends. Celle-là, elle va te plaire, je pense. Penses-tu que cette crise peut mener à un effondrement comme les collapsologues le prédisent depuis des années?
Non, non. Je suis très très critique de la collapsologie. Ouais, tu le sais. Mais en tout cas, de façon très factuelle, cette épidémie va pas. Enfin, on a plein d'exemples de civilisations qui se sont mangées des trucs bien plus vénères que ça, la peste noire en Europe, pour ne citer qu'elle, hein, mais il y en a d'autres, les épidémies de choléra à répétition, etc. Et ça n'a pas renversé des sociétés au sens auquel on l'entend.
On s'est adapté. On s'est adapté et en plus, pour les grandes pandémies dont tu parles, peste noire, grippe espagnole, on avait un taux de létalité beaucoup plus important que celui de la Covid, quoi.
Les seuls cas de civilisation qui se soient vraiment effondrés à cause d'épidémies là qui me viennent en tête, c'est vraiment les civilisations amérindiennes qui sont. Mais en fait, enfin, la situation est un peu particulière parce que leur système immunitaire était très très peu adapté à ce genre de truc avec très peu de diversité. Donc quelque part, c'était une bombe qui attendait d'éclater. Et nous, on n'est plus dans ce genre de situation, surtout qu'on a la médecine, on a trouvé les antibiotiques, etc. Donc non, je crois pas du tout à l'effondrement. Non, non.
Est-ce que pendant cette étrange période, tu as appris des trucs qui t'ont particulièrement étonné, surpris? Enfin, moi, je sais que régulièrement, je tombe sur des infos. J'ai parlé de plusieurs super centenaires qui ont survécu à la fois à la grippe espagnole, à la Deuxième Guerre mondiale et qui ont survécu vécu au Covid, etc. Il y a des tas de choses qui se passent. J'ai vu au Bangladesh une prière collective avec des milliers de personnes qui priaient pour
J'ai vu ça.
éliminer le coronavirus
J'ai
en
vu ça.
réunion massive. Donc on est dans un truc assez incroyable. Est-ce que tu as vu des choses, des infos qui t'ont vraiment marqué, surpris, qui n'auraient pas pu arriver en dehors de ce contexte, quoi?
Ouais, il y en a, mais en fait, tu viens de les citer. Du coup.
Désolé.
Les autres aussi, enfin, j'ai une très mauvaise capacité de retenir les anecdotes. Donc, quand tu me les rappelles, elles viennent évidemment. Mais je dirais que les trucs qui m'ont intéressé beaucoup, c'est sur les mécanismes vraiment sous-jacents de comment est-ce que les choses émergent et tout ça. Bah, j'ai découvert plein d'épidémies que je connaissais pas. J'ai découvert l'épidémie du virus Nipah, les hantavirus. En fait, c'est un monde entier que nous, on a vraiment été épargnés par tout ça. Et je me dis, waouh, c'est fou. Enfin, c'est cool quelque part qu'on a été épargné. Après, c'est fou parce que, genre, ça arrive tous les ans. Il y a tous les ans des épidémies assez vénères et on s'en rend pas compte, quoi. Juste parce qu'on est protégé, qu'on est. Voilà.
Et qu'est-ce qui fait que celle-ci est différente du coup par
Bah,
rapport à toutes les autres?
la petite spécificité de ce virus-là, c'est qu'il est malin. On parle d'un brin d'ARN, hein, donc c'est pas, il n'y a pas de subtilité intellectuelle, mais en fait, c'est que il arrive à passer vraiment sous le radar parce qu'il est propagé par beaucoup de gens asymptotiques, donc des gens qui asymptomatiques, pas
Asymptomatique,
asymptotiques.
quand même. Ils n'ont pas de symptômes, donc.
Non, là, ils n'ont pas de symptômes, mais ils le propagent quand même. Et en plus, enfin, le virus tue très peu. Donc finalement, on s'en rend compte que très très en retard. Par exemple, pour le cas du virus Nipah, là, qu'il y avait eu en 98, la moitié des gens, en fait, en mouraient. Parce que le lendemain ou le surlendemain où vous avez chopé le truc, Ils avaient une encéphalite énorme, donc ils avaient des maux de crâne. En fait, leur cerveau était en train de fondre à l'intérieur de la boîte crânienne, tu vois. Donc, tu peux pas le rater. Tu vois un truc, il y a la moitié des gens qui sont au sol. Tu fais, ah, ok, là, il y a quelque chose. Et là, tu vas pouvoir tout de suite très vite confiner la chose. Alors qu'à ce virus-là, en fait, peut-être que la moitié des gens ne présentent pas de symptômes. Ensuite, dans la moitié des gens qui présentent des symptômes, 80%, c'est des symptômes assez légers. Donc, finalement, tu peux quand même continuer à te balader. Tu as une petite fièvre, mais bon, voilà. Donc, en fait, c'est vraiment, il est trop optimisé pour se propager. Et ça a surpris tout le monde, quoi.
Et il y a un argument qui était répété assez régulièrement au début de l'épidémie par les conspirationnistes et consorts, c'était que bah voilà, chaque année, par exemple, la grippe classique fait 10 000 morts et on n'en parle pas, et là, tout à coup, alors qu'il n'y a que quelques centaines de morts, bon, cela dit, on les entend un peu moins maintenant, cela, mais l'idée, c'est que ce virus-là est extrêmement contagieux et que forcément, sur la masse totale, il y aura potentiellement beaucoup plus de morts que par les épidémies habituelles et que surtout, il y en a trop en trop peu de temps et que ça sature les services hospitaliers.
Exactement.
C'est ça la différence.
Ça, en fait, là aussi, il est assez sournois, le virus, c'est qu'il te... Enfin, dans 20% des cas, t'as besoin d'une hospitalisation. Donc, tu prends de la place, en fait, dans le système de santé. T'es lourd, quoi. Et puis oui, effectivement, il est deux fois plus... Enfin, il a un R0, comme on dit, donc en gros, il est deux fois plus contagieux que le virus de la grippe classique.
Ouais. Tu peux juste nous expliquer vite fait ce que c'est le R0, tout ça ?
Le R0, c'est le nombre de gens que chaque personne infectée va lui-même infecter. Donc en fait, c'est la capacité du virus à se multiplier quelque part. Donc ça, par exemple, si moi j'ai le virus et que le virus a R0 de 2, bah, je vais contaminer deux autres personnes. Et on voit bien que c'est tout de suite, dès que le R0 est plus de 1... Ça part en réaction exponentielle parce que voilà.
Ça, on sait que l'exponentialité, c'est vraiment redoutable.
Ouais, bah ouais, là, on l'a vu, hein, on le voit.
Et oui, mais on n'est pas équipé, c'est bête, hein, mais on n'est pas équipé, nous les humains, pour réaliser à quel point l'exponentialité peut faire très très mal. C'est pas intuitif, quoi.
Clairement, on pense de façon très linéaire. Et tu le vois, c'était marrant d'ailleurs dans les commentaires des gens où tu peux voir. Bon, sur Twitter, t'as les gens qui sont là, ouais, mais c'est bon, juste 1% de mortalité. Ouais. Alors, fais juste 1% des 70 millions de Français, regarde le chiffre et demande-toi, est-ce que t'es prêt à voir tous ces gens-là mourir ? C'est énorme, 1%. Ouais. C'est monstrueux.
Bien sûr. Et tout dépend de quoi on parle, de quelle masse on parle. 1% de 10, c'est pas énorme. 1% de 1 milliard, forcément, c'est pas la même chose. D'autres questions dans le chat, très intéressante question de Nicolas Thomas qui nous dit. Que pensez-vous que cette épidémie va créer en termes de pop culture, en termes d'inspiration ? À ton avis, est-ce que ça va créer quelque chose culturellement ?
Alors, c'est marrant parce que en 2000, j'avais regardé le nombre de films de zombies après, après tu sais, le SARS de 2003 et puis surtout la grippe porcine en 2009. La grippe porcine, on en avait pas mal parlé. Et en fait, le nombre de films de zombies a augmenté après 2009. Il y a eu, tu sais, une espèce de trend où il y avait aussi beaucoup de trucs de survie, les jeux vidéo qui marchaient à donf sur la vague des zombies, etc. Et je me demande s'il ne va pas y avoir un truc un peu équivalent, tu sais.
Ouais,
en tout cas, la nouveauté, là, c'est le confinement, vraiment. Donc je me demande, tu sais, on va peut-être avoir énormément de huis clos.
c'est obligé. On va avoir beaucoup, beaucoup de films, je pense, et beaucoup de comédies. Sur ils se sont retrouvés confinés ensemble, etc. Mais par rapport au film de zombies, moi ce qui me frappe, c'est que finalement on est un peu dans une situation d'apocalypse zombie, mais sans les zombies. Et déjà on voit comment on galère. Donc, heureusement qu'en plus, on n'a pas des zombies. Cela dit, j'en parlais avec un pote hier. Entre autres informations anxiogènes. Je vous en mets une petite si vous l'aviez ratée. Mais donc, il y a un incendie actuellement autour de Tchernobyl. Et donc, la radioactivité autour de... Je rime, c'est pas drôle, en fait. Hein, mais la radioactivité autour de la zone a augmenté. Donc, on peut imaginer, tu vois, que tout à coup, les particules radioactives donc, se propagent en Europe, que ça fasse muter le virus et que là, enfin, on ait des zombies.
Mais
là,
en fait,
on passe aux choses sérieuses.
C'est marrant parce qu'on se dit, c'est un truc auquel je pensais aussi, c'est on se dit comme s'il pouvait y avoir une seule catastrophe à la fois. Mais non. Enfin, je veux dire, pourquoi c'est pas comme si elles attendaient que le tu vois. Donc, par exemple, tu sais, le truc de la faille sismique, là, San Andreas, qui est en Californie, bah, pourquoi pas, elle pète maintenant, tu vois.
Ou le volcan du Yellowstone.
Ouais, carrément. Et il pourrait y avoir d'autres épidémies qui profitent de la vague. Tu vois, c'est complètement envisageable, en fait, ce genre de truc. Tu pourrais très bien avoir plusieurs machins.
Cela dit, petite question contre-intuitive. Est-ce que ce serait pas le meilleur moment pour nous pour qu'une autre épidémie se déclenche ? Parce que on n'a jamais été aussi en place. Là, on est confiné, on se serre pas la main.
C'est vrai qu'il y a un bon argument là-dessus. Ouais, c'est que...
Elle survivrait pas très longtemps, forcément, vu
Je
que.
pense que. Ouais, oui, tout à fait. Et puis même, il y a très peu de vols, donc très peu d'occasions pour elle de devenir une pandémie. Tout est ralenti, quoi. C'est vrai. Très bon argument.
Question de Laure, comment notre vision et notre rapport vis-à-vis de la science va être impacté par cette pandémie? C'est une question, moi, qui me préoccupe beaucoup parce qu'on voit des choses terribles qui se passent en ce moment par rapport à tout ça. Quel est ton point de vue là-dessus?
Ah là là, c'est tellement une très très bonne question. Bon, déjà, je pense que, comment dire, le problème en France, typiquement, on a Raoult là, qui est un peu en mode cow-boy solitaire, etc. Et puis en fait, la communauté des médecins se divise pas mal. La communauté chercheur est moins divisée, elle est plus consensuelle sur l'importance d'utiliser la méthode scientifique de façon générale. Mais en fait, le rapport au public et à la science, il est en train de devenir super chelou parce que ce rapport, il se construit pas avec les chercheurs, parce que les chercheurs, ils sont pas en contact avec le public. Donc en fait, le rapport entre la science et le public, il se fait à travers les médias. Et les médias, en ce moment, il y a vraiment un double jeu assez chelou. D'une part, tu as des médias qui vont dire écoutez un peu le consensus scientifique, il faut faire la méthode scientifique pour les traitements, etc. Il faut suivre les guidelines, etc. Et puis de l'autre côté, tu as les médias qui sont en mode ouais, mais quand même. Il est vachement fort ce virologue. Il a un énorme laboratoire. Enfin bref, des trucs qui n'ont aucun rapport avec la méthode scientifique.
Ouais.
Et ben nous, enfin en tout cas les gens qui ont une formation ou qui ont une vague idée de comment fonctionne ce monde-là, t'es là, mais oui, les gars, vous êtes en train de flinguer le rapport entre les gens et la science. Parce que là, par exemple, en ce moment, il y a un énorme attrait pour tout ce qui est l'argument d'autorité. Raoult, c'est un directeur de laboratoire, il a, je sais pas, 250, je crois, chercheurs qui travaillent à temps plein pour lui. C'est un gigantesque truc. Il est impliqué dans plusieurs startups, il y a beaucoup d'argent, etc. Et du coup, cet argument-là, et puis il a aussi publié des papiers qui sont, enfin, il a co-publié, hein, des papiers qui sont incroyables. Et du coup, tu te dis, bah, s'il est si fort, il doit avoir raison, forcément. Mais ça, c'est pas un
Ouais.
argument scientifique, c'est un argument d'autorité, ça. Il
Ouais,
a une
bien
blouse
sûr.
blanche, c'est un argument d'autorité. Et en fait, le problème, c'est que beaucoup de médias se posent là-dessus et utilisent ça, alors que bah, c'est l'inverse de ce qu'il faut, ce genre de truc. Il faut juste donner confiance aux gens dans la méthode scientifique à découvrir des trucs, quoi.
Alors, il y a 2 jours, j'ai vu passer un truc ahurissant, partagé par Nicolas Martin, qui est l'animateur de la méthode scientifique sur France Inter, qui fait d'ailleurs une très bonne chronique quotidienne sur le sujet. Et donc, c'était un sondage publié par Le Parisien, tu vois ce que je veux dire?
J'ai vu sur
Sondage incroyable. Et la question, c'était, pensez-vous que la chloroquine est efficace contre le coronavirus? C'est-à-dire qu'on posait la question aux gens. On est dans un délire total.
Ah, c'est ouf.
Est-ce qu'on va s'adresser aux gens pour résoudre des questions scientifiques? Est-ce que la gravité, c'est du sérieux? Est-ce que la Terre est plate? On n'a
Ouais.
pas à demander à l'opinion publique ce qu'elle pense de l'efficacité d'un traitement hypothétique. On est dans un délire total.
Ouais, moi j'avoue que ça m'inquiète un peu. Alors en plus, ça m'inquiète en France. Tu sais, quand je sortais de mes études, j'étais en mode ah, franchement, nous en France, on est quand même stylés. Et puis les États-Unis, c'est tous des cons, ils sont climato-sceptiques. Ah, ah, ah. Et en fait, avec le boulot, avec Dirty Biology et tout ça, j'ai fini par me rendre compte qu'en France, on a une spécificité très très à nous. C'est que sur les sujets de l'écologie et sur les sujets de la médecine, on est vraiment pas les premiers de la classe, quoi. On est d'ailleurs un des premiers pays anti-vax au monde. Voilà, ça je l'ai appris. On est
D'ailleurs,
aussi.
on les entend beaucoup moins, eux aussi, en
Ouais,
ce
je
moment.
pense qu'ils sont morts, ouais.
On les entend un peu moins, ouais.
Non, mais c'est vrai qu'on les entend moins, mais ils vont ressurgir. Enfin, il y a forcément une façon ou une autre, une porte d'entrée dans laquelle ils vont.
Ben,
C'est évident.
on connaît, c'est ça qui est dramatique, c'est qu'on pourrait se dire que dans une telle situation, justement, on pourrait s'attendre à avoir des revirements comme ça d'opinion, que les gens pourraient ouvrir les yeux sur certains sujets, mais on connaît malheureusement la puissance de la dissonance cognitive,
Ouais.
et sans doute des anti-vax qui vont trouver de très bonnes raisons pour donc, persister dans leur vision. Une autre très bonne question de Kenza, qui nous dit, penses-tu que nous allons enfin reconsidérer notre rapport à la nature? Je pense notamment à la régénération qu'on peut observer ici et là. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Bah, je croise les doigts, alors j'espère. J'aimerais, je pense que c'est nécessaire, hein, comme je racontais, pour limiter l'émergence d'épidémies, de toute façon, faut vraiment remettre en question plein de trucs. Faut remettre en question notre empiétement sur les écosystèmes naturels, parce que les virus, c'est pas eux qui viennent vers nous, hein, ils courent pas vers la ville, les virus, hein, c'est nous qui les chopons dans les zones naturelles. Donc c'est vraiment qu'on est trop empiété. faut remettre en question notre rapport à l'élevage intensif, etc. Et après, ouais, peut-être que ça serait pas mal de prendre goût au fait que, je sais pas, un peu moins de bagnoles, c'est pas mal aussi. Enfin, ça fait des trucs cool. Mais une partie un peu cynique de moi, j'y crois pas trop, tu vois. J'avais vu que notamment, après la crise là, des subprimes de 2008, il y avait eu un rebond économique. J'ai un peu peur de cet effet rebond, en fait.
Ouais.
Mais encore une fois, tu vois, je crois que émettre des prédictions, c'est vraiment, c'est bon si t'es si tu vends du vent. Mais quand t'es un tout petit peu rationnel et tout, tu te rends compte que c'est impossible de faire des prédictions dans un contexte aussi complexe que ça, avec autant de facteurs impliqués.
Il y a 6 mois, qui aurait pu prévoir la situation du monde?
Exactement. Exactement. Donc,
voilà. Évidemment, il y a toujours des gens qui prétendent après coup que c'était prévisible et que voilà. Ouais. Sauf que personne n'est capable de dire ce qui va se passer dans un mois ou deux, quoi. Surtout maintenant, quoi.
Ouais, tout à fait.
Alors, est-ce qu'on a d'autres questions sur le chat? On en a plein. La mondialisation est pointée du doigt dans cette pandémie, mais n'est-elle pas aussi un outil principal de lutte contre elle via la coopération internationale, ou est-ce une vision idéalisée? Est-ce que tu as un point de vue là-dessus?
Un peu, oui, clairement, on en parlait avec Théo de Banane Mentale, tu sais, il vient de sortir une vidéo sur où il fait parler le virus, elle est vachement cool, sa vidéo. Et en fait, on parlait du fait que le virus, il a une façon très peu subtile de nous pointer du doigt les problèmes civilisationnels. En fait, il montre, tu sais, ce serait un animal exotique qui est braconné, qui nous aurait refilé le truc, donc... Arrêtez de faire ça. Alors ensuite, ça s'est propagé en 2 secondes depuis Wuhan, qui est un gros hub d'avion, et partout dans la planète. Vraiment, en 24 heures, c'était fait. Arrêtez de faire ça. Arrêtez d'être aussi intense dans les échanges, machin. Tous les mecs qui sont sceptiques de la science, voilà, ils sont en ce moment en réanimation en Grande-Bretagne. Enfin, tu sais, il y a vraiment arrêtez de faire ça. C'est évident, il faut arrêter de faire ça. Soyez juste, réfléchissez 2 secondes. Et le virus est très peu subtil dans sa façon de nous montrer qu'on est teubé.
Ouais.
Après, voilà, je me dis effectivement, la coopération internationale, c'est à peu près le seul truc qui existe aujourd'hui pour les virus qui sont devenus des pandémies. Et on sait que ça a marché. Hein. L'OMS a fait disparaître la variole. Elle a presque fait disparaître la polio de la surface de la planète. Donc,
bien sûr.
Il y a des trucs qui fonctionnent, tu vois. Après, c'est sûr que ces machins n'existeraient pas à ce niveau-là, à cette échelle-là, s'il n'y avait pas la mondialisation. C'est sûr.
Évidemment. Enfin, mais finalement, c'est comme énormément de choses dans notre vie. Rien n'est noir ou blanc. Tout ça est très gris. C'est la même chose pour Internet. Aujourd'hui, sans Internet, ce serait très compliqué, la vie. Et en même temps, Internet, c'est aussi le plus gros vivier de fake news et de conspiration. Donc, voilà, les choses ne sont pas aussi manichéennes que ça. On peut trouver des avantages et des inconvénients.
Et puis, beaucoup de choses. Quelque part, le système est là, donc tu ne peux pas vraiment le changer. Enfin, c'est pas comme si on pouvait... Ah, il faut faire avec et trouver les façons de...
C'est sûr. Alors, cher Léo, comme prévu, on a un peu débordé sur cette partie. Donc là, normalement, l'émission devrait s'arrêter. Mais vu qu'on n'est pas à la télé et qu'on fait un peu ce qu'on veut, on va continuer un petit peu et on va changer un peu de sujet puisqu'on va parler de tes recommandations culturelles. Alors, est-ce que tu as noté quelques trucs, quelques films, quelques séries?
Est-ce qu'ils ont déjà, parce que tu as déjà eu d'autres invités, est-ce qu'ils ont déjà parlé de Tiger King?
Alors, je vais te dire, personne, il n'y a que moi qui en ai parlé. Donc, si tu veux en parler, je t'en prie. J'ai juste conseillé aux gens de le regarder, mais je te laisse nous donner ton point de vue sur le truc. Qu'est-ce que c'est Tiger King?
J'ai pas encore tout fini. Je ne spoil pas. Une sorte d'ouverture sur un monde incroyable qui existe à côté de nous sans qu'on sache qu'il existe. C'est vraiment, tu dis, mais ceci existe.
Exactement.
Et c'est ça, quoi. Mais en fait, tu vois, je savais pas, par exemple, que tu pouvais posséder des lions, des léopards, tout ça, aux États-Unis, à la cool, quoi, sans pression.
L'idée qu'il y a plus de tigres aux États-Unis que dans leur habitat naturel.
Ouais, sans régulation.
C'est complètement fou. Et comme tu dis, en voyant le documentaire, moi j'avais l'impression de découvrir vraiment un monde parallèle dont j'ignorais tout.
Ouais.
Parce qu'il y a une communauté de gens comme ça, et ce qui est dingue, ce qui semble les relier, c'est qu'ils sont tarés.
Oui, alors documentaire le montre très bien. D'ailleurs, il n'y a rien à faire pour le montrer, il suffit d'allumer la caméra. Hein. Il parle tout seul. Et...
C'est complètement fou. C'est-à-dire qu'on a des personnages. Moi, c'est ce que je dis aux gens quand j'essaye de les convaincre de regarder le documentaire. Si c'était un film des frères Cohen, on trouverait que c'est trop gros. Ouais, on dirait non. Non, non, Joe Exotic, là, mais non. On n'y croit pas une seconde.
C'est vrai, incroyable.
Là, comme c'est la réalité, on peut que s'incliner, quoi.
Ouais. Ouais, je suis assez fan de ces documentaires de un peu de vie où tu as vraiment des gens excentriques. Bah, l'autre documentaire que j'ai beaucoup aimé, un petit peu dans le style, mais avec plus l'aspect science, c'est Behind the Curve sur les platistes. Et donc, c'est un peu pareil, ah. il va aller explorer la pensée platiste et tout. Et c'est...
Incroyable aussi. Ouais. On parle de dissonance cognitive. Là, ouais. on peut l'observer dans toute sa splendeur. C'est incroyable ce qui se passe.
C'est clair. C'est incroyable.
Alors, donc là, c'était les documentaires. Est-ce que tu as des jeux vidéo, des
podcasts, des bouquins, je voulais parler de la... Ah oui, mais j'ai déjà parlé des vidéos. Mais la dernière vidéo de Alt236 aussi, je l'ai commencé. J'ai vraiment kiffé sur Dark Souls.
Qui a fait 1h19. On le recevra sans doute d'ailleurs dans ce live Alt236. Il a fait une vidéo d'1h19 sur Dark Souls. Personne ne fait ça. C'est le seul à faire ça dans ce pays. Et ce qui est fou, il est tellement gentil, ce gars, mais d'une gentillesse pure et d'une humilité pure. C'est-à-dire qu'il a fait une vidéo d'1h19 et elle a été claimée par Warner, parce que je crois qu'il a mis 15 secondes d'un film qui appartient à Warner. Donc, du coup, il ne gagne pas d'argent sur cette vidéo-là. Et Warner, du coup, a truffé sa vidéo de pub. Et il s'est excusé sur Twitter pour les pubs qu'il n'a pas mis, lui. Il a dit « Je suis désolé », alors qu'il a fait une vidéo d'1h19 que les gens peuvent voir gratuitement. Ce mec est incroyable. Bon, maintenant, vous connaissez tous sa chaîne, je pense, mais si ce n'est pas le cas, allez-y.
Mais tu as vraiment fait une belle chose en faisant sa promo, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est une des petites gemmes de...
Je fais partie de ceux qui en ont parlé, mais de toute façon, moi, je pense que voilà, quand il y a un tel talent, ça finit par se savoir. Ce serait trop triste que ça puisse passer à la trappe indéfiniment. Alors, OK, vidéo. Est-ce que tu as des suggestions de bouquins
Jeux vidéo, j'ai Disco Elysium. Alors, il faut être fluent, comme on dit en anglais. Parce que c'est du bon anglais, puis bien, bien détaillé quand même. Il y a du bon vocabulaire, mais c'est trop bien écrit. En fait, tu joues une sorte de détective alcoolique, vraiment le cliché, tu sais, du film noir, quoi. Cette putain de ville. et en fait, c'est dans un univers un petit peu proche du nôtre, mais pas tout à fait. Et c'est trop bien écrit, c'est vraiment très cool. Et j'ai joué à ça en live, donc je me suis un peu prêté à l'exercice de la traduction en live. Ouais. C'est pas évident. Et en fait, je suis mort assez rapidement parce que mon personnage a sombré dans le désespoir. J'ai fait tellement de mauvais choix que mon personnage est devenu fou, en fait, et il s'est retrouvé. À la fin, tu lis une brève qui sort d'un journal, et en fait, où ça te raconte que ton personnage vit sous un pont, et il lance ses excréments sur les passants et il gueule. Et tout est incroyable dans ce jeu. Enfin, vraiment, c'est...
Bref, ça, c'est sur PC, Switch...
Sur PC, ouais.
Que sur PC pour l'instant, d'accord.
PC, ouais.
Disco Elysium. OK. Ouais,
trop bien écrit.
Eh bien, merci beaucoup, Léo. Je rappelle que toutes les recommandations de nos invités sont écrites sur le chat et on vous les retrouver ensuite dans la description de la vidéo. Léo, merci. C'était très, très chouette. Merci à Laure qui était avec nous en première partie. On se retrouve, nous, vendredi prochain à 17h avec deux nouveaux invités. N'hésitez pas à partager cette émission pour la faire connaître. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Oh, pardon. Est-ce que ça tourne toujours? Bon, excusez-moi. J'ai fait une petite erreur. J'ai oublié de remercier nos partenaires. Et là, vraiment, je m'en veux. Cette émission est réalisée avec le soutien du CNC et déjà, je les remercie, mais si vous cherchez des films en VOD, ils ont une plateforme très pratique qu'on va vous mettre dans la description qui permet de trouver des films en VOD. Donc voilà, si vous voulez regarder un film et que vous ne savez pas où le chercher, sur OCS ou sur Netflix ou sur je ne sais quelle plateforme de VOD, ben vous allez sur le site vod.cnc.fr, vous tapez le nom du film et ils vous diront où est-ce que vous pouvez le voir. Voilà. Maintenant, je peux vous dire au revoir. Je m'excuse pour ce petit oubli. Vendredi, à bientôt. Ciao, ciao.
Salut.